D'accord, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai cauchemar. Un cauchemar très silencieux, mais absolument dévastateur pour le commerce en ligne.
Ouais, un fléau pour les ventes, c'est vraiment le mot.
En fait, c'est ce qu'on appelle dans le milieu le problème du catalogue patchwork. Et pour tous les décideurs e-commerce qui gèrent des centaines ou des milliers de références, c'est une réalité qui fait vraiment mal.
C'est clair, c'est un phénomène assez systémique. L'incohérence visuelle, en fait, c'est souvent le grand angle mort quand une marque grandit.
Plus elle réussit, plus son image se fragmente.
Exactement. Et ça crée une vraie dissonance pour celui qui achète.
Et pour bien comprendre d'où vient ce problème, et surtout comment on le règle aujourd'hui, on a épluché une belle pile de documents.
Ouais, une pile assez hétéroclite, mais hyper complémentaire.
Tout à fait. On a des rapports de l'industrie de chez Autophoto et MetricsCart.
Il y a aussi cette super étude sur la photographie commerciale par Skywall Photography.
Très orientée sur la psychologie de l'acheteur, d'ailleurs. Et on a aussi un manuel stratégique dédié à l'IA de marque, ce qu'ils appellent le playbook, et la base de connaissances d'une plateforme d'IA qui s'appelle YourRender.ai.
Ce qui nous permet de cartographier tout le problème de A à Z, en fait. De la réaction du cerveau face à une image jusqu'aux nouvelles architectures technologiques.
Voilà. Donc la mission de cette exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette fameuse incohérence visuelle détruit littéralement les conversions.
Et on va chiffrer ça. Les coûts réels de la photo traditionnelle pour un catalogue moyen, ça fait peur.
Ouais, ça pique. Et on verra comment l'intelligence artificielle, plus précisément un vrai directeur créatif virtuel, arrive à résoudre cette équation impossible.
Un vrai changement de paradigme.
Mais commençons par la base. C'est quoi exactement ce fameux catalogue Patchworka? Comment on en arrive là?
Il faut imaginer une marque d'e-commerce à ses débuts. Au lancement, le catalogue compte genre 50 produits.
Tout est gérable.
Voilà. Tout est hyper maîtrisé, les photos viennent d'une seule et même séance avec un seul photographe.
La direction artistique est carrée.
C'est ça. L'éclairage est bien calibré, les ombres tombent exactement au même angle sur chaque objet, la couleur est parfaite, l'identité visuelle est immaculée, quoi.
Ça transpire le professionnalisme.
Absolument. Mais c'est là que la mécanique s'enraye, en fait. Le succès arrive et le catalogue gonfle. On passe à 100, 300, puis 500 produits.
Les nouvelles saisons, les nouvelles collections.
Et c'est là que les ennuis commencent. De nouveaux shootings sont nécessaires, mais le studio de départ n'est peut-être plus dispo.
Ou le photographe a changé.
Ou pire, la marque essaie de faire des économies en prenant différents prestataires. Et le résultat?
C'est le chaos.
Un chaos visuel. Les nouvelles photos, une lumière un peu plus froide, la balance des blancs n'est plus la même, le fond qui devait être blanc pur tire vers le grisâtre.
Ou le jaune, c'est affreux ça. Et d'où le terme patchwork.
Exactement.
On se retrouve avec une boutique en ligne qui est censée être premium et qui commence à ressembler à une brocante digitale en fait.
C'est le mot. Les pièces sont recousues ensemble, mais elles n'ont plus du tout le même ADN.
Ce qui est fascinant, c'est de voir l'impact que ça a concrètement.
Ce qui est fascinant ici, c'est surtout l'analyse du comportement des acheteurs. C'est pas juste une question d'avoir un joli site.
C'est psychologique.
Complètement. D'après les données de MetricsCart, 87% des décisions d'achat sont influencées par la précision visuelle.
Attends, 87%?
Ouais. L'image remplace le toucher, l'essai en cabine, la manipulation de l'objet. C'est la seule connexion physique avec le produit.
Donc l'image est bien plus importante que le texte, ou même parfois le prix?
Bien plus. Et la sanction est immédiate si l'image n'est pas cohérente. 53% des gens abandonnent carrément leur panier face à des détails visuels confus ou contradictoires.
Mais comment on définit un détail visuel contradictoire en fait?
Prenons l'exemple d'une veste. Dans la galerie principale, la photo montre un tissu mat, disons un bleu marine très profond.
D'accord.
Mais quand on fait défiler les photos et qu'on regarde le mannequin qui porte la veste sous un éclairage différent, le tissu a l'air brillant et tire plutôt vers le bleu canard.
Ah ouais, la fameuse friction cognitive.
C'est ça. Le cerveau ne sait plus ce qui est vrai. Et dans le doute, l'instinct primaire de l'acheteur, c'est pas de prendre le risque, c'est de fermer l'onglet.
En incohérence, crée le doute et le doute tue la conversion. C'est implacable.
Et ça va plus loin. L'impact financier continue même après l'achat.
Les retours.
Voilà. 22% des retours de produits se produisent juste parce que l'article a l'air différent en vrai par rapport à la photo du site.
C'est énorme, 22%. Surtout avec les frais de logistique aujourd'hui.
C'est dévastateur pour la marge. Il faut payer le transport, vérifier l'état, reconditionner, remettre en stock. Et tout ça à cause d'un mauvais fichier JPEG à la base.
C'est fou. Face à ça, on pourrait se dire qu'il suffit de payer un bon studio pour tout refaire proprement.
Ah, la fausse bonne idée.
C'est ce que disent les documents. Le remède traditionnel fait presque aussi mal que la maladie.
Le playbook donne des chiffres glaçants là-dessus. Pour un petit catalogue de seulement 200 produits.
200, c'est rien.
C'est très peu. Eh bien, si on veut passer par un studio pro classique pour garantir une cohérence parfaite, la facture tourne entre 57 000 et 116 500 dollars.
116 000 dollars pour 200 objets.
Ouais.
Mais du coup, pourquoi les boîtes n'internalisent pas tout ça? Embaucher un photographe en interne, ça coûte moins cher, non?
C'est ce qu'elles pensent. Mais monter un vrai studio interne pour maîtriser la chaîne, ça demande du matériel haut de gamme, des locaux dédiés et surtout une équipe salariée à l'année.
Photographe, retoucheur,
styliste, et là, l'estimation du rapport montre que ça peut taper dans les 378 000 dollars par an, en coût fixe.
C'est insoutenable pour la plupart des PME de l'e-commerce.
Seuls les géants peuvent se le permettre.
Mais de l'autre côté, l'effort paye. L'étude de Skywall Photography montre que la récompense est au bout du chemin, notamment grâce à ce qu'ils appellent la synergie des styles.
C'est le point clé pour la conversion. Il ne s'agit pas juste d'aligner des photos sur fond blanc comme un catalogue ennuyeux.
C'est quoi alors la synergie des styles?
C'est mélanger intelligemment la photo de studio très pure et la photographie lifestyle.
Le photo en situation?
Voilà. Le studio clinique. Rassure sur les détails techniques, la texture, les coutures. Ça parle à la rationalité.
Et le lifestyle parle aux émotions.
Ça crée la connexion. Ça permet à la personne de se projeter avec le produit chez elle ou sur elle.
Et les chiffres d'augmentation des conversions sont assez spectaculaires.
Une augmentation moyenne de 30% du taux de conversion quand la photographie est cohérente avec cette synergie.
30%.
Et des revenus globaux qui augmentent de 23 à 33% pour les marques qui maintiennent cette identité constante.
Il y a l'exemple de cette marque Hawthorne & Gray. C'est des articles pour la maison, je crois.
Oui, de l'ameublement haut de gamme.
Ils avaient vraiment ce problème de patchwork. Leur photo lifestyle n'avait pas la même colorimétrie que leur photo détourée de détails.
C'était déconnecté.
Et en 6 mois, juste en standardisant tout leur process visuel, leurs conversions ont bondi de 35%.
Et surtout, leurs retours ont chuté de 48%.
48% de retours en moins. C'est la marge qui explose.
C'est la preuve que l'image informe autant qu'elle séduit. On a aussi le cas de la marque de bijoux Olivia & Pearl.
Ah, la bijouterie. C'est le pire cauchemar à photographier avec les reflets.
L'enfer absolu. Et pourtant, ils ont investi à peine 3 500 dollars dans une refonte cohérente.
Et le retour sur investissement ?
14 000 dollars de revenus immédiats en plus. Des photos de haute qualité ont des taux de conversion 94% plus élevés que des visuels fragmentés.
94%. La cohérence, c'est littéralement un moteur de revenus.
Sauf qu'aujourd'hui, appliquer ça, c'est un véritable parcours du combattant.
À cause des plateformes.
C'est ce que les experts appellent la fragmentation des plateformes, le cauchemar multicanal.
Ouais, parce que chaque canal de vente a ses propres règles.
Et elles sont tyranniques. Sur Amazon, c'est fond blanc pur, RGB 255, 255, 255.
Et le produit doit prendre 85% de l'image.
C'est obligatoire, sinon on est mal référencé. Mais si on prend ce même produit pour Shopify...
Là, on veut du format carré, en très haute résolution, genre 2048 par 2048 pour le zoom.
Et ensuite, on va sur Instagram. Et là, le fond blanc d'Amazon, c'est perçu comme super froid et commercial.
Ça fait cheap.
Sur Insta, il faut de l'esthétique, du lifestyle organique, du format vertical pour les Reels.
Du coup, on a fait le calcul en préparant l'émission. Pour un catalogue moyen de 500 produits vendus sur 4 canaux différents,
ça fait 2000 annonces.
2000 images spécifiques à produire, à recadrer, à retoucher, tout en gardant le même éclairage et le même ton pour pas casser l'image de marque.
C'est un goulot d'étranglement énorme. Et c'est exactement pour ça que l'industrie plonge massivement vers l'intelligence artificielle générative.
Les chiffres prévoient que le marché de l'IA photographique passe de 450 millions de dollars en 2024 à 5 milliards en 2035.
En croissance explosive. Mais attention, l'arrivée de l'IA a aussi créé de nouveaux problèmes.
Le fameux problème de la machine à sous.
C'est une métaphore parfaite. On utilise des outils génériques comme Midjourney.
On tape un prompt de 3 lignes et on prie.
On tire le levier et on espère le jackpot. Pour un usage personnel, c'est magique. Mais pour une marque qui a besoin de rigueur mathématique...
C'est inutilisable. L'IA a tendance à prendre beaucoup trop de liberté.
Elle hallucine complètement. Le logo de la marque se retrouve déformé.
Ou écrit dans une langue extraterrestre.
Exactement. Et les matériaux ne sont pas respectés. Un sac en cuir grainé va sortir avec une texture de plastique lisse.
Sans parler de la lumière qui change d'une image à l'autre. On recrée le problème du patchwork, mais avec des images synthétiques.
C'est ça. Alors bien sûr, il y a des outils plus spécialisés qui sont cités dans les rapports.
Des boîtes comme Photoroom, Clyde.ai, Pebbly ou Flare.ai.
Oui. Et ces outils sont de formidables éditeurs. Ils sont super pour automatiser des détours ou faire de l'édition par lot.
Certains ont même des fonctions pour verrouiller le style.
C'est vrai. Mais l'analyse du playbook est claire. Ce sont des pansements. Ils résolvent des micro-problèmes de flux de travail.
Mais ils ne comprennent pas la marque.
Non. Ils n'ont pas de système d'identité de marque globale persistant.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que les documents introduisent yourrender.ai.
La vraie révélation de cette pile de rapports.
Parce qu'ils sont positionnés comme le seul système d'identité de marque persistant sur le marché aujourd'hui.
L'approche est totalement différente. On ne parle plus de retouches automatisées. On parle d'un vrai directeur créatif virtuel.
Comment ça marche concrètement? Faut encore faire du prompt engineering de malade?
Justement non, l'outil opère dans le sens inverse. Pour seulement 14 petits crédits internes, l'outil va de lui-même analyser le site web de la marque et toutes ses ressources existantes.
Il aspire le site en fait.
Il scanne tout. Il extrait les logos précis. Il cartographie la palette de couleurs officielle. Il reconnaît la typographie.
C'est fou.
Et il va plus loin. Il analyse le ton de la marque pour définir des personas, des profils types du public cible.
Et à partir de là, il crée quoi?
Il génère automatiquement des moodboards, des planches d'inspiration, en piochant dans 55 styles premium.
Donc ça crée une vraie charte graphique verrouillée, un cerveau centralisé.
C'est le mot. Ce profil de marque va régir absolument toutes les générations d'images suivantes.
Fini la machine à sous alors?
Fini. La plateforme utilise ce qu'ils appellent les kits produits. La marque upload une seule photo brute de son objet.
Prise avec un smartphone, par exemple.
Oui. Et l'IA génère en une seule passe une suite complète de visuels.
Le fond blanc pour Amazon.
La haute résolution carrée pour Shopify.
Le lifestyle pour Instagram.
Tout d'un coup.
Sans aucune hallucination, le logo est parfait, le produit est mathématiquement identique, seule la lumière, les ombres et le décor s'adaptent, en respectant la charte initiale.
Mais le plus bluffant dans les documents techniques, c'est la partie vidéo. Ah oui, la vidéo, c'est l'étape supérieure.
Parce que yourrender.ai n'intègre pas un, mais trois moteurs vidéo.
VO 3.1, Seedance 1.5 Pro et surtout Kling 2.6.
Qu'est-ce que ça change pour un e-commerçant d'avoir Kling 2.6 intégré?
C'est énorme. Ça permet de générer des vidéos où un avatar ou un influenceur virtuel présente le produit avec une synchronisation labiale parfaite.
Le fameux lip-sync.
Ouais. L'avatar parle avec le texte qu'on lui donne et tout est généré à l'intérieur du même écosystème de marque.
On n'a plus besoin de louer de studio vidéo ni de recruter des acteurs, en fait.
C'est une démocratisation hallucinante. Si l'on relie cela à la situation globale, souvenons-nous des coûts du début.
116 000 $ pour le studio traditionnel, 368 000 pour l'interne. Marc peut se lancer.
Exact. Et pour les grosses agences, le plan maximal est à 99,90 € par mois.
C'est un contraste absurde. Et toute cette machinerie tourne grâce à un moteur interne, le Nano Banana Pro.
Qui est lui-même basé sur Gemini 3, oui.
Mais toute cette complexité technique reste invisible pour l'utilisateur final.
C'est le but. Le décideur n'est plus un technicien ou un prompteur, il redevient un stratège qui orchestre ses campagnes.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Ça signifie qu'on a passé un cap. L'ère de l'adoption expérimentale de la bidouille avec l'IA, c'est terminé.
On entre dans l'orchestration stratégique.
Absolument. La cohérence visuelle parfaite n'est plus un luxe réservé aux méga-corporations. Avec une IA de marque qui agit comme un vrai directeur créatif, c'est devenu la norme accessible.
Et c'est le levier le plus rapide et le moins cher pour aller chercher ces fameux 30% d'augmentation de conversion.
Tout en tuant dans l'œuf le problème des retours liés aux déceptions visuelles. Le problème du catalogue patchwork a enfin une vraie solution technique.
Ça transforme un énorme centre de coûts en un moteur de croissance direct. C'est vraiment passionnant de voir l'industrie pivoter comme ça.
Ça va très vite.
Mais ça m'amène à une réflexion finale pour clore cette analyse. Une pensée un peu provocatrice.
Je t'écoute.
Si des systèmes d'IA comme YourRender sont aujourd'hui capables d'internaliser et de reproduire si parfaitement l'ADN visuel d'une marque, au point de diriger des campagnes de A à Z...
Où est la limite?
C'est ça. Combien de temps faudra-t-il avant que ces mêmes IA, qui avalent toutes nos données de conversion et les tendances, ne commencent à concevoir de nouveaux produits physiques?
Des produits qu'elles savent qu'on voudra acheter.
Exactement. Et ce, avant même que les fondateurs humains de la marque n'en aient eu l'idée.
La frontière entre promouvoir un produit et l'inventer est en train de s'effacer.
Ça donne sérieusement matière à réflexion pour l'avenir. En tout cas, c'est tout pour notre exploration des documents du jour. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette analyse en profondeur.
Merci.
On le rappelle toujours, gardez un esprit critique et restez curieux face à toutes ces technologies. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'information.